Bonjour, Raymond Richard au micro. Eh bien, nous nous retrouvons pour l'émission Bienvenue en Europe avec M. Michel Bourgès-Menoury. Et alors, quelle est l'actualité aujourd'hui pour l'Europe? Parce que finalement, on a parlé beaucoup ces jours-ci, ou ces temps-ci. On a parlé de la Syrie, on a parlé de la Grèce, on a parlé de l'Angleterre. Et c'est la question anglaise, parce que sortiront pas. Où on en est? Puisque finalement, le prochain Conseil européen a mis cette question à l'ordre du jour. Et puis on voit des Anglais qui sont, paraît-il, hostiles à l'Europe, mais on voit aussi des milieux de la City qui sont plutôt favorables à l'Europe parce qu'ils y trouvent beaucoup de bénéfices. Donc, où en est-on?
Oui, ben, cette semaine où nous enregistrons, il y a eu une déclaration, une lettre exactement, pour être précis, de M. Donald Tusk, qui en a fait part dans une conférence de presse, en début de semaine, pour indiquer quels étaient les points d'accord possibles avec la Grande-Bretagne pour que M. Cameron, son Premier ministre, accepte de défendre dans son référendum prévu le 23 juin maintenant de cette même année, qui est la date la plus apparemment qui serait celle retenue par le gouvernement britannique, pour organiser son référendum sur la sortie ou le maintien de la Grande-Bretagne dans l'Union européenne. Alors Donald Tusk, il faut rappeler, c'est le président du Conseil européen. Il a un mandat de 2 ans et demi devant lui, renouvelable, et donc il représente les États sur un plan plus permanent. Et donc il a négocié avec les 27 autres de l'Union européenne et la Grande-Bretagne pour parvenir sur les 4 points que réclamait en priorité la Grande-Bretagne pour son maintien dans l'Union européenne, 4 points principaux qui consistaient surtout à demander à ce que la Grande-Bretagne continue à bénéficier d'un certain nombre de prérogatives.
De privilèges, carrément,
mais qui pose un certain nombre de problèmes, notamment en ce qui concerne un point plus particulier qui concerne la libre circulation à l'intérieur de l'Union européenne pour les travailleurs. Alors qu'on dit travailleurs migrants, mais ce ne sont pas des migrants qui viennent de Syrie ou d'autres, ce sont les travailleurs européens qui, en particulier les Polonais, pour prendre cet exemple, qui travaillent en Grande-Bretagne. Et donc la Grande-Bretagne a dit non, on va pas, on ne peut plus continuer à leur offrir la sécurité sociale, etc. Toute une série de bénéfices qui mettent en cause néanmoins un des fondements de l'Union européenne, à savoir la liberté de circulation à l'intérieur de cette Union. Alors il y a d'autres, y a évidemment toute une série de questions qui se posent en ce qui concerne la monnaie unique, puisque la Grande-Bretagne n'en fait pas partie, donc elle ne veut pas, elle veut bien avoir les avantages d'être à l'extérieur, mais surtout pas avoir les inconvénients d'être liée en quoi que ce soit par des décisions qui lui seraient imposées. Donc en fait, ce que veut la Grande-Bretagne, c'est retrouver une certaine souveraineté. Elle veut, pour parler carrément, on va dire les choses carrément,
socialiser les pertes privatiser les bénéfices de l'Europe.
Pour parler directement, de manière non camouflée à nos auditeurs, elle veut le beurre et l'argent du beurre. Donc, M. Tusk, pour en revenir au président du Conseil européen, a fait une série de propositions qui ont trouvé l'aval de la Commission européenne, mais qui restent à être précisées dans le détail. Et comme toujours, c'est dans les détails que se cache
Le diable.
Et du côté britannique, on sait d'ores et déjà que M. Cameron, ayant crié sans doute un peu trop tôt victoire en disant « Oui, j'ai obtenu de Bruxelles toute une série d'avantages qui font que je vais pouvoir défendre le maintien de la Grande-Bretagne au sein de l'Union européenne », évidemment, ça n'a pas tardé chez lui. Toute la presse s'est déchaînée.
Les gens ont regardé en disant « En particulier,
Donc tout ceci est très mauvais pour le climat ambiant actuel. Les sondages indiquent qu'il y a une balance vraiment à égalité entre ceux qui sont pour le départ de la Grande-Bretagne et ceux qui n'y sont pas, tout ceci n'est pas très bon pour le climat, et d'autant plus que parallèlement, on sait très bien que derrière, il y a toute cette affaire de Schengen qui se profile avec des problèmes où l'on met tous les maux sur le dos de Bruxelles et de l'Europe, et tout ceci n'est donc vraiment pas de bon augure. Ce qu'il faudrait quand même rappeler, c'est que la Grande-Bretagne, et là je me réfère à un article que j'ai lu tout à fait récemment de Jean Quatremer, qui est un journaliste à Libération, et qui soulignait très très bien le fait que la Grande-Bretagne a toujours eu un problème existentiel dans sa relation avec l'Union. Et alors il soulignait qu'au fil des ans, Londres s'est taillé un statut sur mesure, elle ne participe pas aux politiques qui l'intéressent, ne participant qu'aux politiques qui l'intéressent, elle n'est ni dans l'euro, ni dans l'union bancaire, ni dans la politique d'immigration et d'asile, ni dans Schengen, ni dans la politique de défense, et à peine dans le budget communautaire. Rappelons aussi l'attitude autrefois de Madame Thatcher, qui réclamait toujours un retour de ses investissements. Donc, tout ceci est pas très sain. Et ce qui était intéressant dans cet article auquel je me réfère, c'est que même si, donc ce journaliste dit, même si la Grande-Bretagne sort, eh bien on peut parier que ça ne réglerait pas non plus les problèmes, parce que Londres ne continuerait à avoir dans chaque décision européenne une menace pour la perfide Albion. Enfin, il y va carrément pour dire que un Brexit qui, en plus, rapatrierait toute la dimension financière de la City actuellement vers Francfort en particulier, serait donc comme une menace vis-à-vis de la Grande-Bretagne, et que, en fin de compte, ce serait peut-être pas mal pour l'Europe, mais que, quoi qu'on fasse, la Grande-Bretagne sera toujours un problème, parce que elle ne rêve que d'une Europe qui serait à la manière dont elle dominait le monde au XIXe siècle, c'est-à-dire une Europe divisée. Et par conséquent, il ne faut rien attendre de ce côté-là. Et donc, ce que souligne ce journaliste, et là, je crois qu'on peut partager cette vision future, c'est que la seule réponse à donner, c'est de renforcer la zone euro en créant un noyau à partir des États membres qui faisait partie des six de départ, pour créer une véritable zone fédérale, une Europe qui serait véritablement puissante et qui puisse être elle-même par rapport à tous les autres qui voudraient n'en faire qu'un simple marché libéral à l'échelle mondiale.
Bon, donc voilà, pour la Grande-Bretagne, alors il y a la même chose, on parle de... est-ce que la Grande-Bretagne va sortir. Et puis certains disent il faudrait faire sortir aussi la Grèce, parce que elle est toute, la Grèce toute petite, et la Grèce, au point de vue culturel, c'est quand même bien elle, la racine de l'Europe, si on peut dire, avec l'Italie quand même, le fondement de la culture européenne, c'est quand même bien du côté de la Grèce et de l'Italie. Mais c'est vrai que les questions économiques sont, aux yeux de certains, tellement prioritaires sur le reste, que où en est-on là aussi de ce côté-là? Sachant que c'est quand même en Grèce que arrivent tous les migrants, que c'est la Grèce qui est chargée de faire le tri, qu'on promet à la Grèce de l'argent pour faire ce travail, mais qu'en fait, Frontex ne se déploie pas aussi rapidement, les hotspots qui doivent gérer les réfugiés syriens ne sont pas si nombreux à être et aussi efficaces que ce qu'on souhaite, parce que c'est vrai aussi que c'est très facile de créer les choses sur le papier, mais après il faut quand même déplacer les hommes, même si ce sont des fonctionnaires de Frontex qui viennent en Grèce, eh bien il faut qu'ils s'installent, etc. Enfin, ça ne se fait pas comme ça à un coup de
baguette magique.
Oui, c'est ça, de baguette magique.
Oui, là on retombe à nouveau dans une actualité qui perdure en quelque sorte, puisque tout ce qui touche à cette immigration très importante, ces vagues de migration vers l'Europe, en provenance en particulier du Moyen-Orient, crée des problèmes, et alors on remet en question régulièrement les accords de Schengen. Il se trouve que la Commission européenne
a contrôlé Schengen,
a contrôlé, a fait une évaluation pour... Oui, tout à fait. Non, ça, Schengen, on critique Schengen, mais en fait, on en a besoin plus que jamais. Et la réponse, évidemment, c'est dans un renforcement de Schengen. N'en déplaise à ceux qui prétendent le contraire et qui croient que c'est en se repliant derrière des frontières nationales que l'on va pouvoir régler le problème. Or, il est clair que le problème ne sera jamais résolu au niveau national. Ça n'empêchera jamais, quels que soient les contrôles que l'on pourrait faire au niveau national, d'empêcher des grands flux migratoires. On le voit bien, c'est même pas en dressant des murs et des barrières et des barbelés qu'on y parviendra, parce qu'il faut régler le problème, au moins pour partie au départ. Il faut réguler au niveau des frontières, mais si l'on veut mettre à mal Schengen et qu'on l'on rétablisse les contrôles aux frontières nationales à l'intérieur de l'Union européenne, alors là, c'est non seulement
ça coûte
un
très
retour
cher.
À avant, en quelque sorte, les grands idéaux européens, mais c'est surtout que sur le plan, comme vous venez de le souligner, que ça coûterait des milliards et des milliards, parce que l'économie européenne en pâtirait en premier, compte tenu de la nécessité de procéder à des échanges réguliers, transfrontaliers, à l'intérieur de l'Union européenne.
Puis il y a aussi... Oui, alors allez, continuez.
Excusez-moi, c'était juste pour dire que la Commission européenne a lancé cette semaine aussi, où nous enregistrons, une procédure contre la Grèce, précisément dans le cadre de Schengen, pour souligner, suite à une évaluation, une enquête qu'elle a faite sur le terrain, pour montrer que la Grèce doit absolument... changer sa manière d'agir dans le cadre de ces contrôles de frontières, parce qu'actuellement, elle ne fait pas bien son travail. Et une procédure a été initiée sur le plan juridique, et il se pourrait qu'à terme, la Grèce soit dans l'obligation de sortir de l'espace Schengen. Derrière ceci, il y a quand même néanmoins quelque chose qui est plus complexe, dans la mesure où ce qui est visé à travers cette procédure qui met en cause la Grèce parce qu'elle ne fait pas bien son boulot, c'est indirectement pour aider l'Allemagne à rester sur un plan juridique dans l'ordre de Schengen, ce qui lui permettrait en particulier de proroger pendant 2 ans les contrôles aux frontières dans le cadre de Schengen, sans être obligé d'être mis à mal en disant « si vous stoppez les flux migratoires, suite aux mesures qui viennent d'être prises par le gouvernement allemand, précisément pour les freiner, eh bien, ça les mettrait en porte-à-faux ». Alors ça, c'est une discussion tout à fait technique au plan juridique, mais qui a son importance, parce que ce qui a été très souligné par la Commission européenne, c'est que les migrants en situation irrégulière, suite aux accords de Dublin, ils sont obligés d'être pris en charge dès leur entrée sur le territoire de l'Union européenne dans l'espace Schengen. Alors là, la Grèce est en première ligne et donc elle doit faire quelque chose, théoriquement. Et alors, ce que constate la Commission, c'est que les migrants en situation irrégulière ne sont pas identifiés et enregistrés efficacement. Leurs empreintes digitales ne sont pas systématiquement saisies par le système et que la vérification de l'authenticité des documents de voyage et leur vérification par rapport à des bases de données de sécurité essentielles ne sont pas systématiques. L'évaluation a conclu que la Grèce néglige gravement ses obligations et qu'il existe des manquements graves dans l'exécution des contrôles des frontières extérieures que les autorités grecques doivent surmonter à résoudre. Alors il y a toute une procédure maintenant qui est lancée et on va voir où cela va donner, mais...
On peut
là
dire quand
aussi...
même qu'il y a l'hypocrisie, parce qu'effectivement, la Grèce est le pays voisin, le pays par lequel arrivent les vagues de réfugiés. Or, il y a aussi une hypocrisie. Les bombes, elles arrivent aussi d'un ensemble de pays,
oui.
Y compris européens.
Oui, il faut évidemment tout relativiser. C'est-à-dire que la solution, il n'y a pas, comme vous le disiez tout
si
à l'heure, il n'y a
ça,
pas,
enfin,
c'est jamais
dire,
simple, il n'y a pas de solution miracle. Il y a... ou toute une série de mesures qui doivent être prises. Mais encore une fois, ce n'est pas ni la faute de Schengen, ni la faute des autorités de Bruxelles, mais il faut s'organiser différemment. Alors, on pourra en reparler, parce que ce sont des détails techniques qui sont très importants. La Grèce, selon les accords de Dublin, doit agir parce qu'elle est le premier pays entrant pour les migrants. Et là, ceci ne colle pas parce qu'il faut répartir la charge. Alors dans ce cadre-là,
il y en a 2000 qui arrivent par jour.
Et l'hypocrisie que vous soulignez il y a un instant, c'est que les autres États se cache bien tranquillement derrière cette accusation.
Dublin qui est impossible à appliquer.
Et ne font pas grand-chose pour partager le fardeau. Donc il y a actuellement un manque de solidarité au plan européen et c'est ça qui crée un problème.
Et alors par ailleurs, Mme Mogherini essaie, elle, de stopper l'hémorragie en disant on va aider l'Europe, l'Europe va aider le Liban et la Jordanie pour conserver les millions de Syriens qui sont dans
place,
ces pays.
Dans ces pays sur place. Un point important, c'est que l'Italie, ces derniers temps, tout à fait récemment, il y a quelques jours, l'Italie a marqué son accord, puisqu'il manquait encore cet accord, il fallait l'unanimité, pour qu'il y ait 3 milliards d'euros attribués à la Turquie, cette fois-ci, pour qu'également il y ait un maximum de migrants qui restent sur place.
Eh bien, nous allons faire une pause musicale avant de poursuivre notre promenade en Europe. Eh bien, nous sommes toujours sur Radio Grand Ciel et dans l'émission Bienvenue en Europe. En dehors de ces questions très concrètes concernant certains pays d'Europe, il y a aussi comment en Europe on a transformé les accords de la COP21 et puis comment l'Europe se prend en charge une partie des questions d'environnement. Parce qu'en fait, il y a les projets Natura 2000, il y a un certain nombre de choses. Alors parlons-en.
Oui, la COP21 a été présentée en fin d'année dernière comme un succès au plan international. C'est un plan, il faut le rappeler, un plan d'action globale pour limiter le réchauffement climatique en deçà de 2 degrés Celsius à terme. L'Europe, dans cette affaire, a été à la pointe, ça il faut le reconnaître, non seulement au niveau des démarches qui ont été entreprises dans le cadre de cette COP21 pour obtenir un accord, donc sa diplomatie a été en première ligne, et effectivement c'est la première fois qu'un accord, un tel accord, est obtenu au plan international. Ceci étant, il faut évidemment relativiser parce que même si c'est un succès pour l'Union européenne et que dans ses propres États membres il y a beaucoup de choses qui sont effectuées en faveur de la lutte contre le réchauffement climatique, et là il s'agit essentiellement de tout ce qui est mis en œuvre au niveau des politiques énergétiques, et en particulier pour réduire l'usage des hydrocarbures. Il faut dire que c'est au bout de 5 ans, tous les 5 ans il va y avoir un réexamen de l'état d'avancement des différents États dans le monde, mais il n'y a pas, malgré tous les cris de victoire qu'on a pu entendre autour de ce résultat de la COP21, il n'y a pas, sur un plan juridique formel, un juge qui condamnerait tel ou tel État à payer des amendes si, s'il ne procédait pas véritablement aux engagements qu'il a pris. Alors, il y a actuellement un certain nombre d'éléments défavorables en ce qui concerne l'application le bon aboutissement des objectifs qui ont été pris en compte.
Le prix du pétrole est tellement bas que finalement...
Elle n'a jamais été aussi bas, alors que tous les économistes nous disaient il n'y a pas si longtemps qu'il ne pouvait que toujours monter. Jamais on a eu autant de pétrole à vendre. Alors là derrière, il y a toute une stratégie au Moyen-Orient, politique, etc.
On connaît. Remplace le pétrole par autre chose.
Et puis, avec la guerre entre l'Arabie Saoudite qui veut à la fois mettre à mal l'Iran
qui revient sur le marché,
les États-Unis avec leur gaz de schiste, qui sont devenus par ce fait la première puissance énergétique pétrolière du monde. Hein. Il faut quand même le devant tous les autres.
Ce pétrole est coûteux, donc alors, il commence
Alors, tout ceci fait que les énergies dites renouvelables coûtent évidemment très cher au coût du pétrole qui coûte plus grand-chose. Donc là, c'est le premier grand défi qui se pose à l'Europe. Et puis, il y a aussi des mesures, quels que soient les grands cris que l'on prononce au niveau européen de félicitations sur sa propre action. Il faut quand même rappeler que, par exemple, en Allemagne, le réseau électrique n'est pas relié encore avec les éoliennes qui sont en mer du Nord. Et puis il y a des conflits entre les lenders pour savoir qui va payer. Donc il y a toute une série de choses à faire. Et pendant ce temps-là, les centrales à charbon et hydrocarbures n'ont jamais aussi bien fonctionné. Donc il faut relativiser, il faut rester vigilant. Et on va bien voir ce que cela va donner. Ceci étant, la nature est en principe plus forte que les humains. Donc espérons qu'au bout du compte, tout le monde sera gagnant et que les actions des uns et des autres permettront d'aller de l'avant dans ce domaine sans tomber dans un débat un peu simpliste où tout serait
un contrôle insupportable des uns et des autres.
Oui. Exactement.
Donc on évoquait les éoliennes et le contrôle des éoliennes. On a pu regarder aussi que les autorités espagnoles qui avaient financé le nettoyage de terril le nettoyage, normalement, est pris en charge par les entreprises suivant le principe pollueur-payeur. Donc, l'Europe est assez vigilante sur ces questions et prévoit aussi, pas simplement d'être le gendarme, mais en même temps de favoriser les projets, notamment les projets nature. Et pour les bassins hydrographiques, pour la qualité de l'air, alors la qualité de l'air, c'est en Pologne, par exemple, les bassins hydrographiques, c'est en Allemagne et au Royaume-Uni. Eh bien, il y a donc là des fonds européens qui permettent d'améliorer les infrastructures pour, je cite, relever les grands enjeux environnementaux et sanitaires, la pollution de l'air, de l'eau, la biodiversité. Donc, des projets intégrés que l'Europe favorise.
Oui, pour souligner ce que vous venez d'indiquer, c'est que on critique toujours l'Europe. Et à ce qui concerne Natura 2000, on peut tous voir dans notre géographie locale des projets et des zones qui sont classées Natura 2000. Et ça, voilà des exemples tout à fait concrets. On ne voit pas souvent, on ne souligne pas en tout cas assez que c'est l'Europe qui soutient ça. Donc voilà des exemples où sur le terrain, il y a des choses positives qui se font.
Et alors, à cet égard aussi, je pensais qu'il était intéressant de regarder d'un peu plus près ce qui concernait les voitures, puisque à un moment donné, on a évoqué l'affaire Volkswagen, et puis on a dit, mais comment se fait-il, l'Europe donne des normes qui acceptent une pollution supérieure. Et alors, en regardant d'un peu plus près cette législation européenne, parce que je me suis dit quand même, ça paraît tout à fait contradictoire, donc allons voir de plus près. Et bien là... Je cite la commissaire chargée du marché intérieur de l'industrie qui explique qu'il faut une mise en œuvre rigoureuse, y compris dans l'industrie automobile des affaires, et que notamment améliorer la surveillance des voitures en circulation, augmenter le niveau de qualité d'indépendance des essais de véhicules, parce que jusqu'alors, les contrôles étaient effectués par des amis ou des audits étaient faits par des partenaires des entreprises automobiles. Donc,
ouais, jusqu'à présent, ils étaient juges et parties dans les propres
donc
contrôles.
Là,
donc ça, c'est un...
La commissaire dit, eh bien maintenant, ce ne sont plus les services liés aux constructeurs qui font les essais. Les critères de performance sont plus stricts pour des services techniques qui sont soumis à des audits réguliers et indépendants pour conserver leur désignation. C'est-à-dire que maintenant, on désigne des personnes qui contrôlent les véhicules, mais qui sont indépendantes des constructeurs. Mise en place d'un système efficace de surveillance du marché pour contrôler les voitures en circulation. Et en même temps aussi, on pourra faire des contrôles aléatoires pour que l'environnement soit protégé. Donc on a là quand même des affaires qui sont tout à fait précises et pour lesquelles, c'est vrai, l'Europe a relevé la hauteur des émissions, mais des émissions qui sont calculées non pas en laboratoire avec des petits copains, mais en fonctionnement réel des voitures sur les parcours, ici ou là. Donc, cela semble intéressant. Et puis, un autre domaine aussi qui me paraissait intéressant, parce qu'on parle beaucoup d'évasion fiscale. Alors, c'est vrai que l'évasion fiscale, ça fait perdre de l'argent aux pays en voie de développement, mais ça en fait perdre aussi aux citoyens européens. Et en période de disette financière, nos hommes politiques se sont rendus compte que les systèmes permettaient aux entreprises, par exemple, nous sommes une entreprise pharmaceutique, par exemple, c'est un exemple donné par la Commission. L'entreprise pharmaceutique fait des recherches, a des brevets, et puis, tout à fait naturellement, elle reporte les coûts de développement sur ses bénéfices. Et puis, lorsque les recherches aboutissent, lorsque l'actif génère des bénéfices, elle transfère le produit vers un pays où le taux d'imposition est nul. Et c'est là qu'on dépose la demande de brevet. Et du coup, la valeur générée à partir de la propriété intellectuelle est non taxée. Et alors là, la Commission européenne a regardé d'un peu plus près toutes ces affaires. Donc, instaure ici une taxe de sortie. Ici, propose d'empêcher les entreprises de délocaliser leurs actifs uniquement dans le but d'éluder l'impôt. Ici, décourage les entreprises de mettre en place des montages d'endettement artificiels afin de réduire au minimum leurs impôts, de bénéficier des déductions fiscales pour les mêmes investissements dans des pays différents, en instaurant des filiales. Bref, il y a là toute une réflexion et tout un travail réel. Donc, c'est à la fin du mois de janvier que la Commission européenne s'est mise en charge de ces questions. Nous franchissons, je cite le commissaire, nous franchissons une étape vers le renforcement de la confiance à l'égard du système fiscal en le rendant plus juste et plus efficace. Les citoyens doivent pouvoir être certains que les règles fiscales s'appliquent de manière égale aux particuliers et aux entreprises. Elles doivent s'acquitter de leur juste part de l'impôt là où elles exercent leur activité économique réelle. Alors on peut s'amuser parce qu'en fait, c'est vrai que les pays se sont rendus compte que cette évasion fiscale des entreprises, finalement, revenait à leur faire perdre des ressources importantes et que de ce fait, c'est M. Moscovici, ce sera la fin, nous dit que le manque à gagner se chiffre en milliards d'euros et que de ce fait, nous faisons un pas important pour établir la justice et l'égalité entre les Européens. Voilà, vous entendez l'hymne européen, c'est la fin de notre émission. Je vous dis au revoir. Et bonne semaine à tous !